12 chansons originales sont au programme et le moins qu'on puisse dire, c'est que Buddy les joue avec rage, une énergie incroyable. Oui, ce disque est violent, malgré le cadre parfois étroit du Chicago Blues 12 mesures et une production un brin trop soyeuse. La force qui se dégage de son écoute est intense, instrumentation et arrangement impeccable, trop, voire plus haut l'appréciation de la production. Buddy livre des morceaux de guitare fabuleux avec des solis qui viennent déchirer le ciel de ma chaîne comme un superbe éclair d'orage d'été. Dès le premier titre, le ton est donné, Bash Down Fool commence son travail de sape, la guitare vient vous foudroyer les boyaux et les cuivres enrobent la chose magnifiquement. Too Many Tears est un superbe duo avec Susan Tedeschi. Et Lying Like a Dog, un blueslant magnifique où Buddy baigne dans la reverb. Show Me the Money, disons-le tout de suite, c'est un sacré rock à la Fabulous Thunderbirds. Arrêtons là la description, il y a toutes les facettes du blues et de Buddy Guy dans cette galette. Buddy revient, espérons qu'il n'aura pas la mauvaise idée de rejoindre ses potes là-haut dans les mois à venir, car avec une forme pareille, il va nous pondre encore de bien beaux disques. Viennent le rejoindre sur cet opus les Memphis Hordes, Willie Mitchell, Derek Trucks, Robert Randolph et Quinn Sullivan. Au fait, j'ai oublié, Eric Clapton passe pour croiser le fer avec Buddy et lui non plus, il n'est pas venu pour rien. Voilà la chronique de Francis Lachey à propos de cet album Skin Deep, dont le titre album n'est pas mal non plus, Monsieur Buddy Guy. Moi j'ai choisi de vous faire écouter Every Time I Sing the Blues avec Eric Clapton. Et tout ça dans Sweet Home Chicago.
Something I can use, and I feel it running through me, and I give it my heart and soul. I trust the song I'm singing, let the feeling take control. I'm just trying to tell the truth. Every time I sing the blues, I might think about a woman. Wrong. I might think about some hard times when I was barely hanging on. I might think about a brother who still can't make ends meet. Or some fallen sister selling it on the streets. I'm just trying to tell the truth. Every time I sing the blues.
Bye.
Voilà, cet extrait du tout nouvel album de Buddy Guy qui s'appelle Skin Deep. Ne loupez pas également d'écouter le titre Skin Deep dans lequel intervient le guitariste Derek Trucks. Pour les anglophones, Skin Deep, bah, c'est un appel à la non-violence et du moins au combat contre le racisme dont souffrent encore, bien entendu, vous vous en doutez, les États-Unis comme partout dans le monde. Hein, le racisme, c'est quelque chose qui a tué des millions de gens et qui continue à le faire malheureusement. Skin Deep, voilà, Buddy Guy qui, à sa façon, essaie de reprendre le flambeau d'un Martin Luther King. Voilà, j'espère que Barack Obama, lui aussi, sera entendu de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, c'était mon petit passage politique. J'en ferai plus jusqu'à 15h, hein, c'est promis. On est ensemble jusqu'à 15h et on va démarrer cette fameuse série d'interviews autour de la presse blues avec Mike Lécuyer qui est au téléphone. Mike, comment vas-tu?
Salut, ça va?
Ouais.
Pour tout le monde.
Ça marche impeccable. Bon. Écoute, Mike, t'es pas venu tout seul, t'es venu également avec un album. Peut-être, on va tout remettre dans l'ordre. Mike Lécuyer, donc, que vous connaissez peut-être pour aller surfer de temps en temps sur Internet et aller chercher du blues. Vous êtes forcément passé par un site de chez Mike Lécuyer. Mais on va revenir à l'ère post-Internet.
Au 20e siècle.
Ouais, on va revenir au 20e siècle. On va même revenir plus de 30 ans en arrière. Avant même que tu, ouais, que tu sortes des disques, Mike, tu t'intéressais déjà à la presse blues et à la presse rock, hein, autour des années 70. Est-ce que tu peux nous résumer cette partie-là de ta carrière, Mike?
Oui, en fait, c'est venu de l'envie de créer une revue, une première revue qui s'appelait Pop 2000.
Et ça,
le premier numéro est paru en janvier 72.
72, donc 28 ans avant, ça s'appelait déjà Pop 2000.
Ça, c'était pour défendre les groupes français.
Mm-hmm.
Que le sous-titre, c'était le journal de la pop française.
D'accord.
C'était l'époque de Ange, Martin Circus, Triangle, Magma, Variation, etc.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est venu, en fait, de... Bon, je lisais tous les canards, y compris Rolling Stone aux États-Unis.
Mmh.
Et en 69 ou 70, j'ai envoyé une lettre-article qui faisait le point sur la scène pop française.
D'accord.
Et ils l'ont publié. Et
ils l'ont publié, c'est-à-dire que tu l'avais envoyé en anglais initialement?
Oui, oui, en anglais. Oui.
D'accord.
Ils l'ont publié dans Rolling Stone, donc une super fierté. Et malheureusement, je n'ai pas retrouvé le numéro, enfin je sais plus.
Alors appel aux collectionneurs, il y en a peut-être quelques-uns qui écoutent Sweet Home Chicago actuellement. Si vous possédez ce numéro du magazine dont tu vas nous rappeler le nom,
Rolling Stone.
Hein, Rolling Stone, voilà, de 69 ou 70, si vous avez une.
Déjà je sais plus trop. Hein.
Eh ben, ça fait un petit moment.
Et après, hein, je me suis dit, oh bah merde, alors si les Américains sont capables de publier un truc, il faut que je fasse.
Et donc tu t'es lancé dans la presse et parallèlement à une carrière de musicien, donc on peut évoquer également, tu t'es fait un petit nom dans la presse rock des années 70.
Oui, dans la presse, après Pop 2000, il y a eu Maxi Pop, un hebdomadaire.
Ouais.
Et puis après, Choc pétrolier de 73, faillite, donc tout ça s'est arrêté.
Tiens donc.
Mmh. J'ai commencé à composer des chansons en français, j'en composais déjà depuis le lycée dans les années 60. Mais là, plus sérieusement, après ça, j'ai composé avec mon ami de lycée, Bernard Zwang.
Bernard Zwang, oui. On va évoquer tout à l'heure Bernard Zwang, avec lequel tu as
parallèlement à ses maquettes, à ses chansons qu'on écrivait ensemble, je collaborais à d'autres magazines comme Gold, What Magazine, et puis surtout Rock'n'Roll Music, qui, ça, c'était 76-77.
D'accord. Alors, je vois également sur la pochette de ton album, hein, qui s'appelle, je le rappelle, 19-777-879, putain, 30 ans, moi je dis le monde entier, hein, désolé.
Ah bon.
je te cite, Mike, hein, tu m'arrêtes quand tu veux. Tout commence donc entre Montparnasse, Paris 14e, et le lycée Lavoisier, Paris 7e, au milieu des années 60, où entre deux parties de Flipper et de Baby Food, je joue successivement dans des groupes aussi connus que Special Session, Tough, Mick Mike Blues Band ou Delta. En 68-69, je fais le 10 jockey, donc dans le tripot Paris 1er, puis le banquet à la General Society de Montrouge. Hein, tout le monde aura reconnu. Dans les années 70, je deviens rock critique à Pop 2000, Maxi Pop, Gold, Watts Magazine, tu l'as dit, Rock and Roll Music. Et puis on peut retrouver tout ce parcours là, de ton 20e siècle sur l'un des sites que tu animes qui s'appelle donc www.presse.bluesfr.net.
fait.
Et voilà. Et enfin, maquettiste dans le groupe Hachette. Non, non, ce n'était pas le nom de mon nouveau band, dis-tu. Un groupe Hachette que tu as quitté il y a peu de temps, finalement. Tu es resté pendant toutes ces années à travailler pour...
C'est encore par trentaine, en fait.
D'accord.
Depuis les 10, donc ça fait 30 ans que... Presque 30 ans... et c'est l'année dernière, il y a même plus que ça, il y a un an et demi, presque deux ans.
D'accord. Donc en fait, là tu vas attaquer l'année prochaine ta troisième période de 30 ans, si je compte tout.
Oui.
Tu comptes faire quoi des 30 prochaines années, Mike?
Mon prochain disque, je connais presque le titre, mais j'en suis pas encore sûr. Mais par contre, je sais le sous-titre, ça sera putain 60 ans. Je le fasse dans un an et demi.
Écoute Mike, on va continuer cette sympathique conversation dans quelques minutes, juste le temps d'écouter la première plage de ton album.
Au lieu de savoir ce que tu as choisi, je dirai pourquoi après.
D'accord, mais écoute,
pas du tout ce que tu as choisi.
Tu ne sais pas ce que j'ai choisi, effectivement, puis tu vas le savoir au fur et à mesure. J'ai choisi trois titres. Le premier, ça fait partie du 45 tours que tu as sorti en 1977. On va passer la face A, ça s'appelle « Des vacances ».
Ok.
Oh,
Voilà, des vacances, oui, on sort d'en prendre là, mais on aimerait bien y retourner parfois, c'est vrai, surtout quand on voit le temps pourri qui nous attend à la rentrée. Mike, toujours avec moi ?
Ouais, tout à fait.
On est ensemble jusqu'à plus d'heure, hein, parce que voilà, on va évoquer ton parcours, également ta carrière dans le monde de la musique, mais également dans le monde des rock critiques. Alors là, sur le morceau qu'on vient d'entendre, c'était à la fin, c'était Christian Descamps hein, au chant ?
Oui, la petite voix aiguë, c'est Christian Descamps du groupe Ange.
Du groupe Ange, et c'est également lui qui produisait tes trois disques vinyles, en fait, hein, c'est ça ?
Trois disques ont été enregistrés tous les trois à Angers par Richard Loury. C'était vraiment une histoire de famille, on s'entendait tous très très bien.
Richard Loury qui continue d'ailleurs à enregistrer des groupes avec lequel, je crois que tu avais travaillé avec Pat Boudoulamou il n'y a pas très longtemps.
Ça c'est encore une autre idée, j'avais un projet de label, de choses comme ça, qui voit en fin de jour. Mais il y a 2-3 ans, j'avais été faire un essai avec Pat Boudoulamo et puis aussi avec Xavier Pillac.
Xavier Pillac de Poitiers, exactement.
Il y a bien 3 ans de ça. Donc...
Oui, même un peu plus peut-être.
Ouais.
Voilà. C'est le label Bluesiac qui est en fait une division de Brennus Music hein, fait paraître cet album. Alors il n'y a pas l'intégrale de Mike Lécuyer parce qu'il y a 19 titres. Je crois que tu as dû te séparer de 3 titres pour cause de manque de place, c'est ça ?
Oui.
Et pourquoi pas faire un double CD après tout ?
Avec trois titres, ou alors j'aurais pu rajouter d'autres choses. Je me suis posé la question, effectivement, j'avais des maquettes inédites, des choses comme ça.
Mais... Parce que tu as supprimé trois titres, mais tu as gardé deux versions du même qui s'appelle Une tonne de blues. Alors pourquoi ce choix,
Non,
Mike ?
Non, c'est pas deux versions, c'est parce que sur le 33 tours, il était en une seule partie.
Ouais.
Mais là,
c'est la suite.
Il y a eu la remasterisation.
Okay.
Il a été fait en deux parties parce que c'est deux parties distinctes qui en fait avaient été reliées sur le vinyle.
D'accord.
Mike... Deux versions différentes. C'est le même morceau.
C'est le même morceau en deux fois, voilà.
En deux fois.
J'ai bien compris.
Il n'est pas tout à fait signé par les mêmes personnes.
Oui, parce qu'il y a Morosieri, donc, on le présente plus, Morosieri, qui était déjà à l'époque avec un certain Bill Doren, je crois, au tout début de la carrière de Bill Doren. Hein.
Juste après.
Juste après ça, oui, d'accord.
Voilà, quand j'ai hiberné, comme je dis.
Ouais. Et puis en 78, donc, ce premier 33 tours qui s'appelle À 7 plombes du Mad Blues, on retrouve également un ami commun qui s'appelle Lionel Reynal.
Tout à fait, qui, à l'époque on l'appelait Yo-Yo, maintenant
ouais.
On l'appelle le Révérend.
Maintenant c'est The Révérend même.
Oui.
Et donc voilà, tu as connu tous ces gens-là dans les donc il y a 30 ans maintenant, il faut bien le dire, hein, c'est 1978, ça fait 30 ans.
Je les ai tous connus grâce à mon activité de rock critique.
Et ben voilà, on va recentrer là-dessus parce que c'est vrai que on en a très peu parlé finalement dans toutes les publications que tu as, dans lesquelles tu as œuvré ou que tu as créé. Je veux même un hebdomadaire, ça paraîtrait complètement fou maintenant, un hebdomadaire sur le rock. Enfin, je sais pas si ça pourrait.
Et en plus, j'en étais pas tout seul. Il y avait aussi Pop Music.
Ah oui, donc il y avait plusieurs hebdomadaires.
Et même des concurrents.
et ça se vendait bien à l'époque, franchement.
Ouais.
C'est vrai.
Si ça s'était très très bien vendu, on n'aurait pas fait faillite, mais ça se vendait quand même pas mal.
Quand tu dis pas mal, c'est quoi ? C'est 2-3 000 exemplaires ou carrément plus que ça ? 2-3 000 exemplaires ? Je sais pas, aucune idée.
Non,
c'est plus que ça ?
Le mensuel fait avec nos petits moyens, cutter, école, dans la chambre de bonne de mon associé,
oui.
On a commencé à 15 000 et on a fini à 33 000 exemplaires.
Oh là là là, oui,
c'était le mensuel.
D'accord.
L'hebdomadaire, c'était, je sais plus si c'était, je sais pas, je vais dire entre 12 et 15 000 exemplaires par semaine.
Et ça, c'était uniquement distribué sur la région parisienne, c'est ça ?
Ah non, diffusé par NMPP dans toute la France.
Eh ben, tu me l'apprends, Mike, voilà, chapeau. Écoute, il y a forcément des collectionneurs.
Tu parlais de Pat Boudoulamo tout à l'heure.
Ouais.
Il m'a appris quand on s'est connus, il y a 15-20 ans. Et il m'a dit qu'il lisait régulièrement ses revues dans le RER qu'il amenait à Paris quand il était, je sais pas, étudiant ou qu'il bossait.
D'accord.
Ou alors il devait déjà bosser à l'époque puisqu'il est né de la même génération.
Ouais, ouais.
C'était amusant.
Alors Mike Lécuyer avec nous hein, dans Sweet Home Chicago, numéro 717 aujourd'hui. Il est 14h20. On se donne encore un petit peu de temps tout à l'heure, juste après mon second choix, puisque là tu m'as laissé carte blanche pour pas choisir des morceaux de l'album. Moi je pense qu'on pouvait pas passer à côté 1978 sans écouter Gare du Nord.
Oui, l'Exploit 78 sur RTL, un concurrent de ta radio.
Ah oui, oui, un concurrent de taille, hein, quand même. Alors, Gare du Nord, à 7 l'aube du Mad Blues, version 1978, dans l'album du même nom, de 1978, de Mike Lécuyer.
À arriver vivant à Paris, c'est le genre de truc qui donne un sens à ta vie. Grandiose et cruelle, c'est la sélection naturelle. Commence à ralentir. Perchés sur les caténaires, les vautours ont un curieux sourire. Au bout duquel les contrôleurs vérifient leur chargeur. Au coup de sifflet, tout le monde se jette dehors. Dans les premiers mètres, y a toujours beaucoup de morts. Déjà plus clair, je sors mon revolver.
Toujours avec Mike Lécuyer, Gare du Nord, à 7 l'aube du Mad Blues, enregistrement en 1978 avec un solo de guitare de Moreau Seri, c'est ça Mike?
Ah oui, tout à fait, ah bah, c'est simple, il fait la guitare rythmique, la basse et le solo.
Et tout ça en re-recording déjà à l'époque, comment ça se faisait? Ça se faisait couramment déjà?
Quand même.
Ouais. Ah non, mais c'est, je te parle pas du cinéma muet, attends Mike.
Non, dans les années 60, les studios c'était des 4 pistes, ou ouais, voire 8 pistes, mais voilà. Quand même là, dans les années 70, j'ai commencé avec le 16 pistes, puis on a fini avec 24 pistes.
Eh ben voilà, et puis on continue à enregistrer avec ce genre de matériel.
Des bandes, hein.
Ah ben bien sûr, des bandes, oui, le numérique est arrivé un peu plus tard.
On pouvait pas faire un petit copier-coller et décaler les chœurs d'une demi-seconde si on s'était planté.
Ouais. Donc c'était pas tout à fait les mêmes conditions qu'actuellement. Alors, comment c'était de sortir un album comme ça, donc il y a une trentaine d'années, c'était chez Crypto, distribution RCA, c'était distribution nationale, il n'y avait pas un tortillé.
Oui.
Donc on trouvait ça dans les milliers de disquaires qu'il y avait à l'époque.
Oui, enfin, pas partout quand même, justement, ça a été une petite fâcherie que j'ai eue, je trouvais qu'on n'arrivait pas à le voir assez, surtout que j'ai deux titres qui sont passés pas mal en radio, celui-là, et puis Où est donc le bon vieux temps, une adaptation des Kings.
Ouais.
Donc ces deux titres passant pas mal en radio, j'espérais d'une part avoir un nouveau 45 tours de ces deux titres, puis aussi une meilleure distribution. Donc après, bon, bah, avec Christian Descamps, on a décidé de partir de chez Crypto RCA, bien que ça soit son propre label.
Ah oui, d'accord, il avait créé un label, mais il en était parti parce qu'il était fâché avec ses collaborateurs. Quoi.
On a signé en production indépendante chez Philips pour le troisième disque. Parce qu'à l'époque, c'était pas des autoproductions comme maintenant. Moi, j'ai signé des contrats d'artistes. Je n'ai absolument rien payé.
Il y avait quand même des autoproductions, ça se faisait vraiment, ou il y avait vraiment uniquement de la signature sur label.
Mais pas d'autoproduction, parce que d'abord, c'était pas le CD, c'était le vinyle.
Ouais.
Et puis, il n'y avait pas de home studio.
Ouais.
Allez, les maquettes qu'on faisait chez soi avec un Revox, c'était bien, mais ça ne pouvait vraiment pas faire l'objet d'un disque.
On pouvait mettre ça sur cassette, toujours. On mettait ça sur cassette, peut-être.
Aussi, ouais. Mes premières maquettes, c'est sur cassette. Mais après, j'ai fait sur deux et sur quatre pistes chez moi, mais ça ne suffisait pas comme qualité.
Mike, j'ai appris dans le petit livret qui accompagne ton album qu'il y avait un titre qui s'appelait Frustration Blues,
ouais.
que tu avais composé sur un texte de Claire Bretéché. Bien sûr, tout le monde se rappelle des frustrés dans le Nouvel Obs.
C'était à propos des frustrés.
Et voilà. Et finalement, t'as retiré l'autorisation de sortir le morceau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein?
T'as passé en premier des vacances, et ça aurait dû être. C'était un slow, en fait, dans la même idée. Que de la même ambiance que des vacances,
oui.
Un peu ambiance wap-do-wap, qui s'appelait Frustration Blues. Et donc j'avais fait une musique avec de la slide, vraiment dans la même ambiance.
D'accord.
Et je l'avais rencontré plusieurs fois, je lui avais fait écouter la maquette, elle était OK.
Mmh.
Et puis je signe le contrat d'enregistrement, quelques semaines avant de partir en studio, elle m'appelle et elle me dit: je suis désolé Mike, mais je peux pas te laisser l'autorisation parce que j'ai une de mes meilleures amies qui fait un spectacle de café-théâtre et elle m'a demandé si elle pouvait utiliser ce texte.
D'accord.
Donc elle l'a filé
elle voyait ça incompatible avec la sortie d'un album.
Oui, j'ai trouvé ça dommage. Surtout que la pièce ne s'est jamais faite.
Oui, en plus. Hein. Est-ce que tu as gardé contact avec Claire Bretéché?
Non, mais je me dis que ça vaudrait peut-être le coup que je...
Que tu la recontactes, oui.
Que je refasse une... Parce que bon, la maquette a bien vieilli, finalement, faudrait que je refasse ça, pourquoi pas. Essayer de la revoir. J'étais tellement déçu que non, je l'ai jamais revu.
Alors, pour revenir à ton passé de rock critique également, moi, il y a une chose qui m'intéresserait de savoir, est-ce que tu avais des retours de la part des groupes dont tu faisais des chroniques de concerts ou de disques? Est-ce que ils t'écrivaient? Comment ça se passait? Tu les rencontrais?
Alors, il n'y avait pas Internet, hein, donc
voilà.
Ou par courrier ou par téléphone.
Ouais.
Donc, les groupes, on va dire professionnels, comme Ange, Magma, Variation, etc., je les croisais régulièrement dans les concerts à Paris, donc ils... Mais surtout, ce qui m'a marqué, et j'en ai encore des échos maintenant, grâce à Internet,
ouais.
C'est que j'avais une rubrique qui s'appelait 2000 groupes. C'était que pour les groupes amateurs.
Mm-hmm.
Il y en a qui n'avaient même pas de maquette, même pas de... C'était sur la foi d'une bio et de quelques photos qu'ils nous envoyaient et d'une vague cassette. On faisait on présentait entre 4 et 6 groupes on faisait une double page, tu vois, par mois.
Et vous êtes arrivé à 2000 finalement?
Non, malheureusement, puisque nous n'avons sorti que 17 ou 18, non, 18, 18 numéros.
D'accord.
Donc, ça en a fait quand même un bon paquet, quoi.
Mmh.
Et ces petits groupes, vraiment petits amateurs, étaient très très heureux d'avoir un quart ou un tiers de page dans Pop 2000. Et je sais qu'il y en a qui m'ont envoyé des lettres ou des mails assez amusants, du genre « Oh, j'ai encadré l'article et il est au-dessus de mon lit, je dors avec tous les soirs, je fais ma
brûlée. » Ah, c'est génial.
C'est fort sympathique.
Est-ce que ça t'arrivait de faire des brûlots sur des groupes que tu n'appréciais pas, ou est-ce que tu t'abstenais d'en parler?
Oh, une fois sur Slade.
Ouais.
Mais ouais. C'était pas dans ma revue.
C'était sur l'album Come Feel the Noise, non?
Ouais, voilà.
C'est vrai?
Ouais. Oui, voilà.
Je crois que c'est leur plus mauvais album. Enfin bon, c'est pas. Ouais, ça reste personnel.
En fait, on avait. C'était dans le magazine Extra.
D'accord.
Le rédacteur en chef avait proposé une espèce de polémique sur ce groupe, les pour et les contre.
Et toi, tu les
à l'époque de le film de Jean-Yann, Moyen d'avoir vouloir des sous.
Ah, Moyen d'avoir des sous, ouais. Et donc, tu les avais démolis dans ton article.
Ouais, mais bon, c'était dans le cadre d'une polémique à plusieurs.
Ouais, et en fait.
Non, s'il y a vraiment quelque chose que j'aimais pas. J'allais pas prendre ma plume et dire que c'était nul, d'une part. Parce que bah, y en a d'autres qui pouvaient peut-être trouver ça très bien.
Oui.
Et puis, il faut quand même reconnaître que c'est quand même du boulot, faut sortir les tripes pour faire un disque.
Ah bah dans tous les cas, bien sûr, oui. Que ce soit
donc,
bon ou mauvais.
Je vais pas humilier quelqu'un parce que je trouve que pour moi, c'est pas bon, quoi.
Mike, il y a deux, trois petites choses aussi pour en terminer, parce que là, on va devoir arrêter l'interview d'ici deux, trois minutes, je pense. Ton arrivée sur la toile remonte à 1997, je me trompe?
Oui, ça c'est... Non, c'est ça. Voilà. Mes premiers sites, Bleu Blanc Blues...
Bleu Blanc Blues, donc tu défends le blues français, alors...
J'avais envie de faire une espèce de discographie complète de tous les groupes.
Oui, et tu continues alors, d'ailleurs à inventorier les albums qui sortent. Hein.
Voilà. Et puis Rock 2000, ça c'est mes archives presse.
Oui.
Et puis après la chaîne du blues.
Alors la création de la chaîne du blues, donc ça remonte à 1999 si je ne m'abuse.
Ouais, c'est ça.
Hein, donc ça va faire 10 ans l'année prochaine.
Plutôt, ouais.
Il y a eu des soirées chaîne du blues sur Paris. Il y a eu des groupes amis qui sont venus. Et peut-être que pour les 10 ans, ça serait une bonne idée peut-être de faire d'organiser un nouvel événement. Je sais pas.
Oui, tiens, au Sous-Bock.
Par exemple.
Pourquoi pas,
bien sûr.
C'est vrai, là, j'en ai pas fait depuis 2 ans, par manque de temps, parce que bon, j'ai des petits soucis familiaux avec mes parents qui sont... Je le disais déjà il y a 30 ans dans une chanson, peut-être que papa et maman sont un petit peu fatigués, mes disques étaient trop forts à écouter, mais 30 ans après, ils sont encore plus fatigués, donc voilà, ça c'est des... petite parenthèse familiale, mais donc je suis pas mal pris par ça.
D'accord. Donc mais, Mike, l'année prochaine, en 2009, tu fêtes en même temps tes 60 ans, les 10 ans de la chaîne, les 10 ans de la chaîne du blues,
oui.
Et puis les 30 ans de ton album dont on va entendre un extrait tout à l'heure, l'album Partie Libre.
Et oui, bah, de toute façon, et puis pour revenir à la presse, il y a quand même le plus ancien magazine Blues, Soulbag.
Soulbag.
Date de 1968.
Oui, exact.
Mine de rien.
D'ailleurs, Soulbag, j'aurai l'occasion dans toute cette série d'interviews de recevoir par téléphone, que tout comme toi, son nouveau rédacteur en chef qui s'appelle Nicolas Ternier. Oui. Tiens, j'en profite puisque j'ai remis la main sur mon planning. C'est vrai qu'il y a toutes les semaines, hein, j'annonçais ça tout à l'heure. Donc, la semaine prochaine, il y aura Aaron Rouchon pour BCR la revue. Le 20 septembre, il y aura, tu connais également, Jean-Pierre Savouillot pour Virus de Blues.
Eh, bien sûr.
Le 27 septembre, ce sera Jacques Leblanc pour Jukebox Magazine. Je te remercie de m'avoir donné son contact.
C'est un ancien de mes collaborateurs.
D'accord, donc on évoquera également votre passé commun. Le 4 octobre, ce sera l'ami Francis Ratto qui écrit dans Crossroads.
Oui, Crossroads.
Voilà, le 11 octobre, donc on recevra Nicolas Ternier. Et puis le 25 octobre, ce sera le tour de Eric Diard pour Blues & Co. Pour les émissions du 18 octobre, 1er novembre et 8 décembre. Et 8 novembre, c'est en train de se caler, hein, les invités
sont... qu'est-ce qu'il y a encore, ABS Magazine?
Il y aura encore ABS Magazine, Blues Again et Blues Magazine.
Voilà. Ah oui,
donc la boucle sera bouclée. Mike, j'ai une dernière question pour toi, la toute dernière. Ton avis sur la presse spécialisée actuelle, justement?
Ouais. Alors, le reproche, entre guillemets, que je leur ferai, ils sont tous bénévoles, c'est d'être trimestriel.
Oui.
Et à l'heure d'Internet, c'est ça un petit peu leur défaut.
Mm-hmm.
Et évidemment...
C'est-à-dire, tu reprocherais peut-être un manque de réactivité, c'est ça, par rapport à l'actualité?
Disons qu'on va avoir, on va entendre parler de disques, ou de concerts, ou de festivals, on va lire des chroniques... avec des gens qui tirent plus vite que leur ombre, comme Fred Delforge, ou etc.
Ça c'est vrai, ça. Salut Fred.
Et puis 3 mois après, ou voire 6 mois après seulement, ça paraît dans le magazine, quoi, tu vois.
D'accord, donc ça c'est le reproche principal.
Mais sinon c'est extraordinaire, quand je vois... Et puis alors c'est fait sur ordinateur, hein. Moi c'était avec un cutter et de la colle.
Ah bah oui, mais comme les premiers, tu évoquais Soulbag tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont démarré en 68-69 avec ces moyens-là, c'était dactylographié, c'était sur stencil et tout.
Une petite aparté, si vous allez sur presse.bluesfr.net,
oui.
J'ai fait la chronologie de toute la presse musicale en France.
D'accord.
Depuis Disco Revue en 1961. Et il y a une page spéciale sur la presse blues où on voit les premiers et derniers numéros pour ceux qui ont disparu de tous ces magazines. On voit un peu l'évolution.
D'accord. Donc tu as récupéré toutes les unes, toutes les couvertures, ouais. Tu as scanné, tu as archivé.
Il y en a que je n'avais pas. Bah, c'est Jacques Perrin qui m'a fourni.
Le numéro 1 avec Otis Redding.
Sympathiquement, le numéro 1 de Soulbag que je n'avais jamais vu.
Qui s'appelait Super Soul d'ailleurs.
Voilà, c'est ça, cherchais, je savais que ça. Et Super Soul avec un. Je sais plus, il y a une astuce, il y a une lettre ou le point d'interrogation qui est à l'envers.
Oui, c'est le L qui est à l'envers, tout simplement, pour faire un point d'exclamation.
Voilà, exactement. Voilà.
Mike, écoute, je te remercie pour toutes ces infos et puis pour ton actualité. Je sais que donc l'année prochaine, tu nous prépares un album, peut-être avec des nouveautés, peut-être avec
j'espère.
Des ressuscés de ton répertoire, puisque tu n'as pas tout fait paraître sur ce disque.
Non, ben là, ça sera deux nouvelles chansons, et puis certaines avec mon ami Claude Dornier, que je salue, qui est à Montréal, avec qui j'ai fait le Festi Blues de Montréal il y a deux ans,
il y a trois ans. Où tu t'es époumonné devant 20 000 personnes.
On reparlera du Festival Blues sur scène avec le tremplin dans quelques semaines.
Exactement, je voulais qu'on termine là-dessus parce qu'on va parler de l'avenir. Le blues français, on a encore sous le pied parce que là, au mois de novembre, ce sera le 10e tremplin blues sur scène qui sera organisé au CAC Georges Brassens à Mantes-la-Jolie. Ce sera pour le dimanche 9 novembre.
Tout à fait.
Et puis, je crois savoir, Mike, que tu es toujours le grand ordonnateur de ce tremplin et que tu as récupéré combien de démos, combien de CD pour cette année ?
Cette année, il y avait 63 candidats.
63 candidats et il y en a 8 qui vont sortir du chapeau.
Voilà.
Et ça sera pour 8, fin septembre ?
Normalement 8.
Fin septembre, c'est ça ? On aura les résultats ?
Oui, au plus tard.
Alors, ce serait bien qu'on puisse en parler dès que possible. Bien sûr, tu vas l'annoncer sur la chaîne du blues. Et puis, peut-être on passera un petit coup de fil, en tout cas avant le 9 novembre, on parlera dans le poste à propos du tremplin.
Soit Fred, soit Jean-Guillermo, soit moi.
Voilà, d'accord. Mike, je te remercie encore. Et puis, si tu as quelque chose à ajouter pour ta défense, vas-y, c'est le moment.
Non, j'écouterai avec plaisir les prochaines semaines mes collègues, enfin non, puisque je ne suis plus dans la...
Ah, tes confrères, on va dire, quand même.
Mais c'est vrai que c'est un boulot passionnant et j'ai vécu des moments inoubliables et des rencontres fabuleuses, ça je peux pas en parler parce qu'on n'a pas le temps, mais avec des artistes, quoi.
C'est
quand même génial de passer une soirée ou une journée... Avec presque tes idoles même parfois.
Ah bah oui, non, bah ça c'est clair. C'est un privilège que partagent tous les bénévoles du blues, par exemple. et dans le rock et dans le jazz, et c'est vrai dans toutes les musiques. Mike, à très bientôt. Voilà. Continue à nous pondre des projets tous aussi enthousiasmants les uns que les autres. Et puis je te souhaite un bon week-end en attendant.
Ok, merci.
À bientôt, Mike.
Ciao.
Voilà, on écoute Mike L'Écuyer, dernier extrait de cet album, donc cette fois-ci c'est en 1979, extrait de l'album Partie Libre, voici Montparnasse.
Je ne suis pas né dans le quartier de Manhattan. Y'a pas de palmiers dans ma rue mais des platanes. Et ma petite amie n'a rien d'une vraie sultane.
On monte tout en haut, la tour Montparnasse.
sur le boulevard. Autour d'un baby, d'un flipper ou d'un billard. Ça vient la Louisiane, quand on tape sur nos tam-tams. Oui, ça swing pas mal, ça c'est mon pain.
Voici les notes de pochette qui accompagnent ce titre, 14e plage de l'album de Mike Lécuyer. Donc Montparnasse, encore une super musique de Bernard Zhuang qui vient en invité poser sa guitare slide, harmonica par Rolly. Mixage de la boîte à rythme à quatre mains, ce titre sort en simple promo et jukebox avec Samedi, donc, qui constitue la dernière plage de l'album. Quelques passages radio sans plus. Voilà, donc Mike Lécuyer, 19-777-879, putain, 30 ans. Merci encore à toi Mike pour cette interview. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on continue notre série d'interviews. On recevra Harold Rouchon, donc responsable de la publication du magazine BCR, la revue Blues Country Rock and Roll. En attendant, voici un troisième extrait du disque de la semaine. Toujours Drew Davis, Rhythm Combo. Il y a toujours une place de concert à gagner pour aller les voir le vendredi 19 septembre au Souboc à Coville. C'est toujours l'album 10 Days, 10 Nights avec Four Knuckle Shuffle. Allez, je vous attends 02 31 94 66 66 pour gagner une place de concert. The Drew Davis Rhythm Combo, extrait de 10 Days, 10 Nights, avec Four Knuckle Shuffle. On va écouter les Blue Tones dans quelques secondes. Je vous rappelle que vous pouvez également vous rendre sur Internet, écouter toutes les émissions qui viennent de sortir. C'est-à-dire qu'il y a la dernière émission qui est forcément en stock quelque part. blues.radio666.com. Et puis, il y a une page cadeau. Alors, vous avez jusqu'au samedi 4 octobre pour gagner l'une des trois places de concert offertes pour aller voir John Mayer à la Traverse à Cléon le lundi 15 octobre. Vous avez jusqu'au samedi 27 septembre pour gagner l'un des trois t-shirts Sweet Home Chicago, donc aux couleurs de l'émission, qui inclut également la reproduction de 10 pochettes d'albums blues de référence. Des t-shirts offerts, bien sûr, par l'émission Sweet Home Chicago. Vous avez jusqu'au samedi 20 septembre pour gagner le CD de Bernard Allison, nouvel album sorti chez Jazz House Records, qui s'appelle Chills and Thrills. Et toujours jusqu'au 13 septembre, jusqu'à samedi prochain, pour gagner deux places de concert pour Drew Davis Rhythm Combo au Sous-Bois à Covid le vendredi 19 septembre, et jusqu'à ce soir seulement minuit pour gagner l'un des trois exemplaires du CD des Blue Tones qui s'appelle More Than a Feeling.
Operator, what's going wrong? Operator, what's going wrong? Nowhere to send a mail, nowhere to have a call. Operator, you'd better fix my line.
Chevillard à la batterie, Eric Lebeau à la basse ou à la contrebasse, Thomas Troussier à l'harmonica, Pascal Fouquet à la guitare et bien sûr Agathe Sarraoui au chant. Ce sont les Blue Tones, Rhythm and Rocking Blues. L'album s'appelle More Than a Feeling. Il y a trois exemplaires à gagner sur le site de l'émission blues.radio666.com et un exemplaire pour vous là tout de suite maintenant si vous téléphonez au 02 31 94 66 66. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Je réponds au téléphone dans 3 secondes. Juste le temps d'écouter ça. tout le monde pensait qu'il avait pris sa retraite. Il est né en 1933, hein, tout comme John Mayall, mais je crois que c'est à peu près le seul point commun qu'il ait avec lui. Il s'appelle Biter Smith, et voici son tout nouvel album qui s'appelle Blues in the Moon, qui est un live au Natural Rhythm Social Club, enregistré pour le compte du label Delmark Records. Voilà, avec une voix intacte, Monsieur Biter Smith, on le retrouvera très bientôt dans Sweet Home Chicago. Il est temps pour nous d'écouter la dernière plage de l'émission. Il s'agit d'un album superbe que je vous fais partager de temps en temps depuis quelques mois maintenant. Ça a été édité par Seven Records. Ça s'appelle Just Between Us et c'est signé Clarence Spelly. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous ce soir à partir de 20h, concert 22h pour Rock en Stock au Sous-Bock à Coville. Et puis si on se voit pas d'ici là, bien rendez-vous samedi prochain à partir de 13h sur la même antenne pour la même punition, Sweet Home Chicago numéro 718, avec encore un invité, donc Harold Rouchon, pour nous parler de BCR, Blues Country Rock and Roll. Salut, bye bye. C'est cool pour finir l'émission, non? Clarence Spelly. Allez, ciao.